Bonjour les frères et sœurs. Vous allez bien ce matin? Moi aussi. On va faire une lecture dans Ésaïe chapitre 53, verset 3. Vous connaissez tous ce texte. C'est une question de Jésus, c'est une prophétie qui est donnée par Ésaïe le prophète et qui annonce que Jésus serait méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et qu'il sera pareil à celui dont on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà ce que le prophète dit au sujet de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que tu nous aides à comprendre ce que nous avons à comprendre en nous appuyant sur ce texte. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je le demande. Amen. Lundi passé, la communauté a regardé une série, parce qu'il y a eu tout un battage de faits, de publicité, et on s'est dit, après tout, c'est quand même un fait historique, il faut qu'on regarde ça. C'est l'histoire du bazar de la charité, je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais c'était terrifiant, et demain, il y a la suite de cette histoire, et nous avons regardé, et... Je voyais tous ces gens avant l'incendie, parce que vous savez qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui sont décédées dans un incendie à Paris. Et je regardais ces gens, ils avaient leur vie, ils avaient leurs prétentions, ils avaient leur religion, ils avaient leur certitude, ils avaient leur orgueil, ils avaient... leur gentillesse aussi, c'était des êtres humains, et je me disais, moi je connais la suite, et en fait Dieu il connaît la suite de l'histoire aussi, de notre histoire, il sait ce qui va se passer, et nous, là devant cet écran de télévision, nous savions que tous ces gens qui étaient très prétentieux, qui regardaient des petites gens de haut, depuis leur grandeur, avec mépris, je me disais, dans quelques instants, ils feront vraiment moins les malins quand ils vont être en train de cramer, mais c'est épouvantable, mais c'est comme ça. Je le savais parce que je connaissais l'histoire un peu, et puis j'avais lu aussi au sujet de cet incendie qui a eu lieu le 4 mai 1897. Vous voyez que voilà, ça fait quand même quelques années, mais ça s'est vraiment passé. Une horreur. Et je pensais aujourd'hui. On voit des gens qui vivent comme si la mort n'allait jamais les frapper. Ils sont pleins de projets, pleins de prétentions, ils sont pleins de mépris pour certaines gens, ils sont pleins de certitudes, ils ont plein de bonnes idées aussi, des fois de bonnes intentions. Certains se trompent, on essaie de leur expliquer, ils ne veulent rien savoir. Bon. Alors je me disais, mais... À quoi joue-t-on? À quoi joue-t-on? On dirait que personne n'a conscience de sa situation. Nous sommes tous mortels. Nous sommes tous mortels. Mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est soyez humains. Soyez humains. Les gens ne sont plus humains. Ils se veulent original, mais presque plus personne n'est humain, c'est-à-dire vulnérable. Tout le monde montre, n'est-ce pas, une espèce d'invulnérabilité, comme s'ils étaient immortels, inatteignables. Et quand on leur parle, par exemple, du salut de leur âme, ils s'en fichent complètement, ça leur est égal. Quand on leur parle que... Jésus a guéri un aveugle et tout, alors il pose des questions sur la doctrine, plutôt que de se réjouir de ce qu'un aveugle a retrouvé la vie, ils sont pleins de prétentions. Oui, mais dans mon église, on me dit que, plutôt que de se réjouir qu'un aveugle a retrouvé la vie, c'est de la folie. Des fois, j'ai l'impression d'être une espèce d'ovni, et plus je vieillis, plus j'ai tendance à... Dur, on ne sauve pas la peine de leur parler, j'en ai marre de leur parler. Et comme je pensais ça, il y a quelque temps, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur, il m'a donné la différence entre deux mots, et je vais vous en parler ce matin, afin que vous ne tombiez pas dans ce piège de l'endurcissement, en se disant, bon, ça vaut pas la peine. La grande majorité des gens sont superficiels et ils ne pensent et ils ne parlent que de choses futiles. Par exemple, quand on reçoit des gens, que ce soit ici ou que ce soit quand on était au château, il y avait bien une demi-heure durant laquelle les gens parlaient. Nous avons pris le chemin du haut, on a vu derrière nous il y avait une pharmacie, on a tourné à gauche et puis voilà, et ça parlait de ça, voilà. Pour surtout qu'on n'aborde pas les sujets importants de la vie. Et voilà. Et c'est toujours comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent comme ça. Ils parlent que de choses futiles. Et puis, maintenant, alors c'est le prix de l'essence. Voilà. Il y a des gens qui meurent. Hein. Il y a des gens qui sont dans des souffrances, des choses épouvantables, qui ont faim, qui n'ont plus rien à bouffer, qui se suicident. Il y a des paysans qui se suicident. Du prix d'essence, bon, quelques centimes. C'est vrai que, bon, ben voilà, quoi. Ou alors, plus bête encore, de la pluie et du beau temps. Alors, moi, j'ai décidé, j'ai remarqué une chose, chaque fois que c'est Evelyne Delia qui présente la météo, on est sûr qu'il va pleuvoir. Non, je plaisante. C'est des bêtises. Mais beaucoup de gens ne parlent que de bêtises. Frères et sœurs, et puis vous qui venez peut-être pour la première fois sur Révélation Bible et qui m'entendez, je voudrais vous dire, assumez votre vulnérabilité. Assumez le fait que vous êtes fragile, nous sommes fragiles. Beaucoup ont été endurcis par l'existence, ils ont été trahis, ils ont été blessés, ils ont été jugés, mal jugés. Et vous vous êtes endurci, et c'est dommage. Parce qu'en vous endurcissant, vous rejetez une part de votre humanité. Parce que d'être vulnérable, ça fait partie de notre humanité. Frères et sœurs, mes amis, trouvez le moyen de ne pas vous endurcir. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons comme Jésus. Et il est dit, dans le texte que nous venons de lire, qu'il était habitué à la souffrance. Alors, il y a un mot, ils auraient pu le mettre, mais ils ont marqué « habitué à la souffrance » parce que là, tout le monde comprend, parce que le mot que je vais vous donner là, qu'ils auraient pu mettre à la place, il n'est plus utilisé. Le mot français pour dire « habitué à la souffrance », c'est le mot « aguerri ». Jésus était aguerri. Il n'était pas endurci, il était aguerri. S'aguerrir, ça veut dire s'habituer au danger de la guerre. Voilà ce que signifie s'aguerrir. S'habituer aux choses pénibles, s'habituer aux choses difficiles. Il était habitué aux choses pénibles, aux choses difficiles. Mais il ne s'endurcissait pas, il s'aguerrissait. Jésus n'avait pas une vie facile, il était tout le temps en danger, hein, mais il a trouvé, dans la communion avec son Père Céleste, chaque jour, il priait, la force et l'intelligence pour ne pas s'endurcir. Jésus a trouvé la solidité pour continuer son ministère, qui était plein de risques, et il continuait à s'émerveiller, à être surpris de voir la foi de certaines personnes, à jouer avec les enfants. Il n'a pas mis une couche de béton armé sur son cœur pour se protéger. Et il n'est pas devenu hautain et méprisant en disant « c'est moi que je suis Jésus ». Voilà. Non. Il n'était pas indifférent. Il allait au-devant des gens qui étaient dans des difficultés. Il n'a pas refusé son humanité. Il n'a pas refusé d'être humain. Il aurait pu. C'était facile pour lui. Il pouvait. Nous, on ne peut pas. Mais lui, il pouvait. Hein, il pouvait. Il aurait pu se cacher derrière sa carapace divine pour se protéger. Et en imposant son autorité infaillible, en faisant peur aux gens, en étant terriblement autoritaire, et il aurait très, très bien pu le faire. Nous, on ne peut pas, parce que voilà, on ne peut pas se cacher derrière notre carapace divine. Nous sommes humains, le Seigneur vit en nous, c'est vrai, mais nous sommes très humains. Alors, ce qu'on trouve mieux à faire dans les difficultés, c'est de se cacher derrière des allures. Et, alors, vous aviez dans ce film, vous voyez, il y avait des femmes et des hommes, des femmes. Ils étaient dans leur salon très, très. Ceux qui me voient sur la vidéo, très hautain, vous savez. Et puis, voilà. Très souvent, c'est un peu ridicule, toutes ces allures qu'on se donne. Ça fait marrer de voir ça. Beaucoup se coupent de la réalité qui les entoure en se réfugiant derrière des allures de vieux films des années 30. C'est ridicule. Vous savez tous que j'aime beaucoup James Dean. James Dean, il avait deux lectures préférées. La première, c'était la Bible. Et la deuxième, c'était le livre du Petit Prince. Je ne sais pas si vous avez lu le Petit Prince, ou je l'ai lu plusieurs fois. Et il aimait particulièrement l'histoire de la rose. Vous savez, le Petit Prince a trouvé une rose sur une planète et il avait peur qu'elle s'enrhume. Alors, il l'a protégée en la mettant sous un globe de verre. Et la petite rose dit, non, non, s'il te plaît, il faut bien que je supporte, n'est-ce pas, un peu le froid, les chenilles aussi, si je veux voir des papillons. Et je trouvais ça très, très beau. Si vous voulez voir des papillons, ben, il faut aussi voir des chenilles, c'est comme ça. C'est pas beau, hein, les chenilles. Vous voyez, c'est très vrai. Si vous protégez derrière une carapace, vous allez vous endurcir, vous n'allez pas vous aguerrir. Et vous allez paniquer dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, parce que vous ne serez pas aguerri, vous ne serez pas habitué aux souffrances de la guerre, au combat. James Dean se montrait tel qu'il était, avec ses fragilités, et ça c'est quelque chose qui a plu à toute sa génération, et puis encore maintenant ça continue, ceux qui le découvrent aiment beaucoup. On parlait hier avec Lucas, qui est mon petit-fils et qui est à l'université et qui étudie le cinéma, et c'est vrai qu'avant lui, tous les hommes au cinéma se montraient, ce n'étaient pas des êtres humains normaux, quoi, je veux dire. Lui, il arrivait, il bougeait comme tout le monde, il montrait ses faiblesses, il avait une fragilité apparente. Il était authentique et c'est. Être authentique, c'est pas. Quand on est authentique, on n'a pas peur de pleurer, par exemple, en public. On n'a pas peur d'être ému et puis que ça se voit. Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur non plus de se mettre en colère contre l'injustice en public, on a pas peur d'être authentique, de montrer que, parce que c'est vrai qu'on pourrait très bien dire, moi je pourrais très bien dire, bah, plutôt que de râler contre ce qui se passe, je vais aller prier, ouais, j'aurais l'air très spirituel, mais c'est pas, il faut aussi de temps en temps pousser sa gueulante, quoi, je veux dire, il y en a. Les pompiers, en ce moment, ils ont raison, je suis avec eux. La vulnérabilité n'est pas une faute, c'est une fantastique capacité d'avoir le cœur touché. Trop de gens ont honte de n'être que ce qu'ils sont, ils se sentent impuissants face à la misère du monde, alors, il joue la carte de l'indifférence. Ah, mais on ne peut quand même pas sauver tout le monde. Non, non, passe-moi le seul. Là, sur Révélation Bible, souvent je fais des appels d'argent à peu près deux fois ou trois fois par an pour aider des gens, des pauvres, du vrai pauvre, hein, qui sont au Burkina, qui n'ont aucun secours social, rien du tout. Vous voulez savoir combien les gens donnent? Ils disent tous Amen, Alléluia. Fait combien ils donnent? Rien. 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 Rien du tout. Parce que les gens sont indifférents. Ils sont indifférents. La vulnérabilité, ça n'est pas une faute. Comment voulez-vous être consolé de toute la douleur du monde c'est pas possible. Il faut au moins faire un petit quelque chose. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Être inconsolable et heureux en même temps. Vous allez me dire, mais c'est, comment est-ce qu'on peut être inconsolable et heureux en même temps? Il y en a un qui ne sait pas que je prêche à Sora, il n'arrête pas de ding, ding, ding. Quand j'ai été trahi par des gens que j'avais aidés et pris chez moi pendant 30 ans, et pour quelques-uns supportés pendant 30 ans, j'ai été 4 ans inconsolable, mais en même temps heureux. Les frères et sœurs de la communauté le savent, on s'est quand même bien marré aussi. On n'a pas été que à gémir et à pleurer. Non. Pourquoi est-ce qu'on a été inconsolable et heureux? Ben parce que c'était très pénible, mais en même temps, nous voulions ouvrir d'autres portes, d'autres chemins, rencontrer d'autres personnes, se faire de nouveaux amis. On aurait pu se dire, ah bon, c'est comme ça, ben c'est fini, je ne veux plus voir personne. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, je le vis, mes frères et sœurs aussi. C'est le moyen qu'utilisait Jésus pour avoir la force d'aller jusqu'au bout, tout en ayant avec lui Judas, et toute cette bande d'hypocrites, prétentieux, religieux, de pacotille sur le dos tous les jours. Vous savez, ces religieux qui prétendent avoir une supériorité sur vous parce qu'ils ont une prêtrise que vous n'avez pas, ou ils ont des bâtiments que vous n'avez pas, ou je ne sais pas moi, des prétentions, des trucs qui ne servent à rien en fait en plus. Quand on regarde leur vie, ils sont comme monsieur et madame tout le monde, c'est pas exceptionnel. Vous voyez, l'équilibre, savoir qu'on est mortel et vivre heureux tout en le sachant, l'équilibre. En ne gommant pas cette idée que nous sommes mortels, c'est ce qui nous permet de vivre et de ne pas seulement exister dans l'irréel, parce que si on s'endurcit, on se crée un monde. Hier soir, nous parlions avec des serviteurs de Dieu sincères, mais qui se sont créés un monde autour de certains écrits, mais qui ne connaissent pas des choses qui contredisent ces écrits, et pourtant ils vénèrent le livre qui les contient, mais ils ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grille, et puis ils sont très prétentieux avec leur grille de lecture, et puis quand on leur met un verset sous le nez pour leur montrer qu'ils ont tort, ils disent « Ah bon, mais c'est quoi la référence? C'est où ?» Ils sont déstabilisés, ils se sont créés un monde irréel, ils ne vivent pas dans la réalité. Ils font des très belles choses, mais ils ne sont pas dans la réalité, ils ont des prétentions ridicules et des réalités fabriquées. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont des réalités subies. Ils subissent des choses qu'ils n'ont pas besoin de subir, si simplement ils avaient la foi. Ces gens, une heure avant de brûler, dans le bazar de la charité, ils avaient tous leur apparence, leur superbe, leur projet, leurs attitudes, leur implacabilité, et toute leur vie disparue comme ça dans les flammes. C'est terrifiant, la fragilité humaine, c'est terrifiant. Ne jouez pas à l'invulnérable, ne jouez pas à ça, parce que vous ne serez plus dans le monde réel. Commencez dès aujourd'hui à prendre conscience de la fragilité de votre vie, sérieusement, et aussi de la vie des autres. J'ai perdu dernièrement un ami qui s'appelle Daniel Siegenthal, c'était mon meilleur ami dans les années 60, on était des ados, et puis c'est lui qui m'a parlé de Raphaël le Gitan, et grâce à lui j'ai été écouté Raphaël le Gitan, et là je me suis converti et ma vie a été bouleversée. S'il ne m'avait pas parlé de Raphaël, ma vie serait été quoi? J'en sais rien du tout. En tout cas, je n'aurais pas continué dans le métier que mes parents voulaient que je fasse, parce que ça me cassait les pieds. J'aurais trouvé un autre truc, mais je serais certainement devenu très riche, parce que, bon, je me serais débrouillé. Mais je ne serais pas l'homme que je suis devenu. Daniel Siegenthal, il est pour beaucoup, parce que s'il n'avait rien dit, Vous voyez, ce que vous dites, ce que vous faites ou ce que vous ne dites pas, ça a un impact sur la vie des gens. Votre vie peut être changée du tout au tout et la vie de milliers de personnes peut être changée. Moi, je me rappelle quand Raphaël est venu, il a dit, en Suisse, à la radio, Dieu, je voulais aller en Belgique, mais Dieu m'a dit non, va en Suisse parce que j'y ai un peuple nombreux. Il est venu en Suisse, il y a eu quelques centaines de conversions, c'était très bien. Au revoir, ma chérie. Il y a eu quelques centaines de conversions, je suis pas un peuple nombreux. Oui, mais moi, là, j'étais là-dedans, je me suis converti, et par contre, j'ai visité 70 pays dans lesquels j'ai prêché l'évangile, et là, je ne compte même pas le nombre de personnes qui se sont converties et qui ont été guéries, et la prophétie de Raphaël s'est accomplie. Un peuple nombreux, c'est parti comme ça. Vous voyez? Les choses qu'on dit. Alors, que dire? Eh bien, nous sommes prédestinés, et Dieu sait à l'avance ce qui va nous arriver, un peu comme moi l'autre soir dans mon canapé, bien confortable, en regardant ce film, la charité, le bazar charité. Il sait à l'avance ce qui va nous arriver. Alors, restons dans la paix. Ça signifie, ne rejetons pas notre vulnérabilité, ne soyons pas anéantis par notre vulnérabilité. Il faut l'accepter, il ne faut pas être anéanti par ça. Admettez que vous avez des émotions, ça vous aidera à admettre que les autres aussi peuvent avoir des émotions, même des fois qui peuvent vous déranger. Ça vous empêchera d'être submergé par vos émotions et puis par l'expression des émotions des autres. Le fait de savoir que vous n'êtes pas vulnérable, eh bien vous apprendrez que les autres ne le sont pas non plus et vous les supporterez. Et frères et sœurs, vous n'êtes pas seul à avoir des émotions, à être sensible, à être vulnérable. Vous n'êtes pas tout seul. Bon, nous le cachons tous plus ou moins bien, un peu comme si c'était une tare d'être vulnérable. Surtout chez les hommes, hein, on nous apprend déjà tout petit, il ne faut pas pleurer. T'es un garçon, il ne faut pas pleurer. Mais ça, c'est une bêtise. Les non-croyants, eux, ils trouvent des responsables, ils cherchent des responsables. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils... Alors, ils vont chez le psy, ils payent cher, et puis ils apprennent que, en fait, c'est la faute de leurs parents. Voilà, c'est la faute de leurs parents. Et parce que leurs parents ne leur ont pas donné assez d'affection, ou trop d'affection, ils les ont couverts, comme la rose de James Dean, et, du Petit Prince, pardon. Ou alors ils étaient toujours absents, donc c'est à cause de ça qu'ils sont vulnérables et qu'ils ont une sensibilité exacerbée, gna 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 gna. Moi je vous dis que la fragilité est inhérente à l'humanité. Nous sommes fragiles et il faut le savoir, tout le monde en est fragile, point barre. En fait, ça nous permet d'être dignes d'être fragiles, ça nous permet d'être dignes. Ces fragilités, une fois qu'elles sont reconnues, une fois qu'elles sont acceptées, eh bien, elles nous permettent de nous aguerrir, de vaincre les épreuves qui viennent, les choses qui nous arrivent, les gens mal intentionnés que nous rencontrons, elles nous aident à être forts dans toutes ces situations, parce que nous ressentons, nous avons des émotions, c'est pas mal d'avoir des émotions. Et nous arrivons à nous en sortir avec élégance. Par exemple, je vous parlais qu'on a été trahis, ben la communauté, on s'en est sorti avec élégance. Ceux qui nous ont trahis, qui nous ont menacés, ben, un jour on les a réunis, on leur a dit, bon ben écoutez, on s'en va, on vous laisse le château. Au revoir. C'était très élégant. Ils n'ont pas su se saisir de ça parce qu'ils manquaient de foi. Ils auraient pu l'avoir, ce château, ça leur aurait coûté rien du tout. Mais nous, on était élégants. C'est ça. Quand on est aguerri, on arrive à s'en sortir d'une façon élégante. Robocop, il s'en sort pas toujours très élégamment. Hein. C'est pif, paf, pouf, boum. Hein, Robocop. Il n'existe pas, Robocop. Même Jésus n'était pas Robocop. Désolé de vous attrister à ce sujet, mais Jésus n'était pas Robocop. Il avait des sentiments, il pleurait parfois. Il n'était pas dénué de sa dimension humaine, Jésus. Et en ces temps difficiles, je vous parlais des pompiers tout à l'heure, ben les pompiers manifestent. Ces gens-là sont des héros. Ils ne font pas que d'aller sauver les chats qui sont perchés dans un arbre. Ce sont des héros qui bravent le feu, qui bravent l'eau, qui bravent énormément de dangers, et pas mal d'imbéciles qui leur jettent des pierres. Ce sont des héros. Et j'ai vu l'autre jour à la télévision, il y avait eu un enfant qui était tombé dans un puits, et les pompiers ont réussi à le sauver après des heures c'était très difficile, ils ont réussi à le sauver, et le pompier qui a sorti le gamin, une fois que le gamin a été mis dans une ambulance, emporté à l'hôpital parce qu'il était déshydraté, etc., eh bien, ce pompier s'est assis, il a mis sa tête dans les mains et il a pleuré. Alors, le fait qu'il ait sauvé cet enfant, ça m'a touché, mais ce qui m'a touché le plus, c'est de le voir pleurer. Sa vaillance et sa vulnérabilité me rassurent. Voilà un vrai homme. C'est pas une espèce de couillon avec des barres de fer qui casse les abribus que ensuite nous allons devoir payer avec nos impôts. Ils sont pas forts, ces gens-là. C'est des cons, c'est tout. Pardon pour les gros mots. Non, je ne vous demande pas pardon pour les gros mots, je les assume. Ces pompiers, ces hommes, ces femmes, aguerris, forts, mais pas endurcis. Vous voyez, pas endurcis. C'est vrai qu'ils ont un petit peu marre maintenant d'être caillassés. Alors bon, il n'existe pas de doctrine chrétienne en 3 points ou en 5 points qui peut nous aider à surmonter la honte d'avoir une ou plusieurs faiblesses. Par contre, je lis dans la Bible les histoires de ceux qui ont pratiqué leur foi en Dieu et qui ont eu une vie remarquable, qui ont vaincu, qui ont gagné, qui de temps en temps sont tombés, mais qui se sont relevés. J'ai aussi le témoignage d'hommes et de femmes d'aujourd'hui qui ont vécu, qui ont été proches de moi, comme T.L. et Daisy Osborne, comme Raphaël et Violette, qui étaient des héros de la foi, comme Vikram Seth et son épouse Jane, comme William Branham, comme Bill et Joanne, comme... Voilà, et aussi le témoignage de mes frères et sœurs de la communauté. Moi, les frères et sœurs de la communauté, hey, ça fait plus de 30 ans que nous vivons ensemble, je les ai vus vivre, je les ai vus rire, je les ai vus pleurer, je les ai vus souffrir, je les ai vus hésiter, je les ai vus tomber, je les ai vus se relever, ils ont vu pareil sur moi. Et leur témoignage m'inspire. C'est pas de la doctrine, ça. Vous n'avez pas le droit d'être inspirant parce que vous n'avez pas la prêtrise pour l'être. Vous n'avez pas le droit de faire des miracles parce que vous n'avez pas la prêtrise pour l'être. Mais ces doctrines, il y en a marre! Je les ai vus, mes frères et sœurs, accepter des défaites apparentes. Je les ai vus prendre des risques, oser être des disciples de Jésus, se débarrasser de la peur de ne pas y arriver. Je les ai vus apprendre à vivre, je les ai vus se libérer des chaînes et des boulets et du moule dans lequel les dénominations religieuses veulent nous couler. Et la communauté, c'est-à-dire l'Église, selon Actes 2 et 4, c'est le meilleur endroit dans lequel on peut s'autoriser soi-même à être vrai face aux autres. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous rendra libre. Et cette liberté, vous pouvez vous l'accorder. Ou vous pouvez lire et puis dire, passe-moi le sel. Vous pouvez vous accorder cette liberté d'être vulnérable, c'est-à-dire d'avoir besoin de consolation, mais d'être heureux en même temps. Vous pouvez vous accorder cette liberté. Elle s'offre à vous. Prenez le temps de l'accepter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à comprendre l'essence de ce message qui ne se rappelle pas que des gros mots que je dis. Bon, je dis des gros mots, mais bon. Au moins, ils s'en souviendront. Je te prie de les aider à comprendre ce que j'ai voulu leur faire comprendre, afin qu'ils soient des gens aguerris. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles, et s'ils ne sont pas aguerris, ils vont être surpris comme ces gens dans les flammes. Je te prie, Seigneur Jésus, qu'ils ne soient pas dans la panique lorsqu'arrivera véritablement les choses terribles qui ont été prophétisées, mais qu'ils soient forts dans tous les moments, pas seulement quand ça va bien, mais aussi quand c'est difficile. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. 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 Au revoir, à bientôt. Dieu vous garde.